France Culture.
Talmudique. Après l'activité physique et sportive en 2024, la santé mentale a été déclarée par le gouvernement la grande cause nationale pour l'année 2025. Une question qui touche presque un Français sur cinq. Une grande cause qui cependant a ses limites car il ne s'agit, dans ce qui est présenté officiellement par le gouvernement, que de gestion de la santé publique et non une réflexion en profondeur sur le soin psychiatrique et son histoire, ses avancées et ses reculs. Et si, comme le dit le sociologue Alain Ehrenberg, la psychiatrie est à la fois médecine comme les autres et autre que la médecine, peut-être faut-il se demander où en est la psychiatrie aujourd'hui et si sa pratique répond et correspond aux besoins et aux attentes des patients qui souffrent de maladies dites psychiques et si ce n'est pas le cas, quelles alternatives peut-on proposer? C'est le projet du récent ouvrage de Jacques Ockmann qui paraît aux éditions Odile Jacob, intitulé « Introduction à une psychiatrie narrative », sous-titré de « L'événement au récit ». Un ouvrage qui, en filigrane, dialogue avec une tradition juive éminente, celle du récit et ses rapports avec la guérison, dont le chantre incontesté fut Rabbi Nachman de Bratslav, qui disait à ses disciples « Je vais vous raconter des histoires et vous allez guérir ». Jacques Ockmann, bonjour.
Bonjour.
Jacques Ockmann, vous êtes psychiatre et psychanalyste, membre honoraire de la Société psychanalytique de Paris, professeur émérite à l'Université Claude Bernard et médecin honoraire des hôpitaux de Lyon. On sent, dans le livre que vous venez de faire paraître, comme une urgence de dire à quel point la psychiatrie actuelle est en crise. Quelle est la nature de cette crise, Jacques Ockmann ?
Je ne doute pas des très bonnes intentions du gouvernement lançant une politique de santé mentale qui est très général, qui est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, une action de santé publique. Mais c'est vrai que la psychiatrie, en tant que soin direct des malades mentaux, est actuellement en crise. Alors, souvent, on attribue cette crise au manque de psychiatres, d'abord, au manque de moyens financiers, au manque, enfin, des problèmes budgétaires, à la fermeture d'un certain nombre de structures. Je pense que c'est vrai et qu'il y a probablement une crise économique en quelque sorte de la psychiatrie, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus que cela. Il y a une véritable crise de doctrine, crise théorique. Il me semble qu'il manque actuellement à la psychiatrie une visée générale, un cap en quelque sorte. Qu'elle s'est prise dans des espèces de tentative un petit peu à court terme, qui a aussi une espèce de fascination actuellement pour des progrès que je ne veux pas discuter, des neurosciences, mais que du coup, le soin direct aux malades mentales pâtit beaucoup. Et il y a eu même toute une série d'articles dans Le Monde il y a quelque temps sur cette crise des institutions psychiatriques où on voit revenir les soins sous contrainte qui avaient presque disparu, où on voit revenir la contention, l'isolement dans des cellules, etc. Toutes sortes de mesures répressives qui souvent sont déclenchées par des peurs, parce qu'il y a eu un fait divers qui a été beaucoup répandu dans l'opinion, et qui sont finalement assez rares, parce que les malades mentaux sont beaucoup moins dangereux qu'on ne le croit. Et je crois que cette crise, c'est surtout une crise théorique, et c'est un peu là-dessus que j'ai voulu intervenir.
J'ai pensé à une histoire racontée par Elie Wiesel, dans Célébration chassidique, un très bel ouvrage qui mérite d'être lu et relu, une histoire attribuée à Rabbi Nachman de Bratslav. Je vous la raconte. Un jour, un roi apprit que la récolte à venir rendrait fous ceux qui en mangeraient. On ne pouvait pas nourrir tout le pays avec de vieux grains. Son ministre proposa d'en mettre de côté pour eux deux, mais le roi refusa en disant « S'il restait seul à être lucide au milieu d'un peuple devenu fou, on les prendrait pour des fous. » Ils décidèrent donc de manger le même blé que tout le monde, mais de se faire un signe sur le front. Ainsi, chaque fois qu'ils se verraient, ils se rappelleraient qu'ils étaient fous. Et peut-être pourraient-ils ainsi gouverner en se souvenant du temps où ils ne l'étaient pas. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire, Jacques Ockmann ? Et je me demandais si vous, qui écrivez que le psychiatre ne sort jamais indemne de sa rencontre avec la folie, aviez aussi un signe qui vous permet de réajuster votre rapport au réel quand c'est nécessaire ?
Je ne suis pas sûr d'avoir ce signe. Je crois que ça serait très prétentieux de le prétendre. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, et c'est en ce sens peut-être que ce signe est salvateur, c'est que il reste un souvenir. Il reste, c'est-à-dire, il reste la possibilité, le souvenir du temps où l'on n'était pas fou, il reste la possibilité de s'inscrire dans une histoire. Et ce qui m'est apparu, et ce que j'essaye de soutenir dans ce livre, c'est qu'un des grands problèmes de ceux qui viennent chercher des soins, c'est que soit ils ont beaucoup de peine à se raconter leur histoire, à mettre leur vie en histoire, à se construire ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle une identité narrative. Ils ont beaucoup de peine à cela, et en même temps, d'autres peuvent se construire à la place une espèce de néo-histoire qu'on appelle le délire, qui les protège peut-être d'une réalité qu'ils ne veulent pas affronter. Voilà un peu ce que ça m'évoque. C'est une très belle histoire, cela dit.
Dans votre livre, vous citez Alain Ehrenberg, qui parle d'un sujet cérébral qui est en passe de remplacer le sujet parlant. Cela mérite commentaire, Jacques Hochmann.
C'est Alain Ehrenberg, qui est donc un sociologue que tout le monde connaît, a écrit ça dans un très bel article de la revue Esprit, que je cite donc au début de mon livre. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'aujourd'hui, devant les progrès incontestables des neurosciences qui ont fait un bond extraordinaire ces 20 ou 30 dernières années, il y a une sorte de fascination parce que ces neurosciences apportent, et une tendance à tout vouloir expliquer par les neurosciences, et en particulier dans le domaine de la psychiatrie, à ne vouloir considérer les troubles mentaux et les patients qu'on rencontre que sous cet angle neuroscientifique. J'ai connu une époque très différente où la psychanalyse était devenue peut-être un peu arrogante et prétendait avoir réponse à tout, mais aujourd'hui on a un petit peu le même genre de mouvement qui se dessine, c'est-à-dire que aujourd'hui les neurosciences voudraient aussi avoir réponse à tout et trouver la réponse définitive, en somme, de tous les ce qu'on appelle les troubles mentaux, ce que je persiste à appeler la folie, dans les seuls résultats de l'étude des neurones et des synapses. Alors, ça conduit, dit Ehrenberg, à remplacer l'individualisation, c'est-à-dire la prise en compte de l'individu, du personnage, de la personne tout entière qu'on a en face de soi avec son histoire, avec ses éprouvés, etc., les remplacer par un objet, un organe, le cerveau, et à individuer des troubles mentaux sans tenir compte de l'individu en réalité. Voilà un petit peu ce qu'Ehrenberg développe dans cet article.
Et c'est justement à cela, Jacques Hochmann, qui fait que vous avez choisi une autre voie que vous appelez la psychiatrie narrative, qui est une résistance donc à cette individuation. Qu'est-ce que exactement la psychiatrie narrative? Comment a-t-elle commencé? Et en vous posant cette question, je pense à la phrase d'Aristote que vous citez, « Il n'y a de sens que général », une phrase dont on oublie souvent, dites-vous, la suite, « Il n'y a d'existence que du particulier ». Si je vous ai bien compris, par le récit du patient, la maladie n'est pas réduite à une étiquette, au diagnostic, mais devient une partie d'une histoire singulière qui est justement cette individualisation. Jacques Hochmann.
Voilà. Moi, j'ai participé à une époque qui a suivi, d'une génération, la libération, et qui était une époque où, justement, les malades mentaux qui avaient vécu souvent longtemps enfermés dans des asiles, dans des conditions d'abandon, de mise à l'écart et de répression, on pourrait dire, ont été tout d'un coup pris en charge sur un mode très très différent, c'est-à-dire on s'est mis à considérer que c'était des individus qu'on avait en face de soi, des personnes, et les soignants se sont formés à essayer d'entrer en contact avec des individus et non plus avec des êtres uniquement marqués par un diagnostic. Dans le livre, j'essaye d'opposer, si vous voulez, le substantif au qualificatif. On peut dire de quelqu'un qu'il a des traits schizophréniques, on peut dire de quelqu'un qu'il est anxieux, mais si on le rabat simplement, non plus dans un adjectif mais dans un substantif, si on le substantifie, si je puis dire, et qu'on en fait un schizophrène, qu'on le résume à être un individu atteint d'anxiété, je crois qu'on le réduit à quelque chose et qu'on perd une grande partie de la relation avec lui et par là de la possibilité de le soigner efficacement.
Psychiatrie narrative, il est question de récit. Qui raconte et qu'est-ce que l'on raconte et à qui on raconte, Jacques Hockmann?
Ce que je voulais peut-être dire avant, c'est que ce terme de psychiatrie narrative que je propose, c'est un peu un démarquage d'un mouvement qui commence à se développer beaucoup aux États-Unis, mais un petit peu en France aussi, et beaucoup plus général, qu'on appelle la médecine narrative. C'est-à-dire que face à une médecine qui est devenue de plus en plus scientifique, et c'est très très heureux, parce qu'elle se fait beaucoup plus efficace, mais qui utilise ce qu'on appelle maintenant l'evidence-based medicine, l'EBM, enfin en anglais, la médecine basée sur les preuves en français, on utilise beaucoup pour choisir des stratégies thérapeutiques, et on a raison de le faire, pour les antibiotiques, pour les médicaments contre la tumeur, etc. On utilise beaucoup les grandes statistiques sur des grandes populations supposées homogènes, et on essaye de voir si tel médicament sur telle population statistiquement a plus d'effet que tel autre médicament. Et face à cette médecine qui progressivement s'est de plus en plus a perdu de plus en plus le contact avec l'individu, il y a eu une espèce de réaction au niveau de la formation des étudiants en médecine. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis et maintenant en France un petit peu la médecine narrative. Cette médecine narrative, ça consiste à utiliser énormément la littérature pour former les étudiants. C'est-à-dire qu'on rassemble les étudiants dans des petits groupes, on leur demande d'étudier des textes littéraires, il y en a beaucoup, des romans ou des autobiographies qui racontent une maladie, quelqu'un qui a été atteint d'une maladie ou un procédé soignant, etc. Et on les met en petits groupes et ils analysent ces textes littéraires. Ensuite, on leur demande, quand ils rencontrent les patients et qu'ils prennent une observation, comme on dit en médecine, qui note en somme la pathologie de leurs patients, on leur demande de faire ce qu'on appelle en anglais « double chart », une double observation. L'une qui note, comme classiquement, les symptômes, etc., pour aboutir à un diagnostic, les examens de laboratoire, etc. Et l'autre qui note à la fois la manière dont le malade raconte ses troubles et ce que le médecin ou l'étudiant en médecine en face éprouve pendant qu'il écoute ce récit. Et on lui demande de rédiger ça un petit peu sous la forme d'une nouvelle. Et ensuite, dans d'autres petits groupes, on va analyser cette nouvelle comme on analyserait un texte littéraire. Et on s'est aperçu que cette méthode développait beaucoup chez les étudiants une empathie pour les malades et qu'ils entraient à ce moment-là en relation avec les malades de manière très différente et que ça avait des résultats dans le soin. Alors, c'est un peu dans cette perspective que j'ai repris ce titre de psychiatrie narrative, mais pour développer en fait une pratique beaucoup plus ancienne et qui était celle à laquelle je me référais tout à l'heure, qui s'était développée après la libération et où la personne du malade est devenue tout à coup le sujet malade, est devenue beaucoup plus l'objet de préoccupation qu'il n'était par le passé, quoi. Alors, vous vous demandiez qui raconte l'histoire?
Oui, quelle histoire déjà et qui raconte l'histoire et à qui? C'est ça la question.
Évidemment, ce que le patient raconte de sa vie, j'ai donné quelques exemples dans le livre d'ailleurs de patients que j'ai suivis pendant très très longues années, raconte de sa vie, à la fois de sa vie passée, de son enfance, de sa généalogie éventuellement, mais raconte aussi des événements de tous les jours. Donc, il y a ce que le patient raconte, et il y a aussi ce que le soignant qui écoute cette histoire, éprouve, se raconte à lui-même, en écho, en somme, au récit du patient, ce qu'il éprouve, et ce qu'il va éventuellement raconter, lorsqu'il s'agit de grands malades, vous savez, il est très difficile de les soigner tout seul, et généralement, ça va être un travail d'équipe, ce qu'il va lui raconter ensuite dans son équipe aux autres, et comment, petit à petit, se construit, en somme, un récit commun, une sorte de co-narration entre le malade et l'équipe soignante.
Vous pouvez nous donner un exemple?
Oui. Il s'agit d'un petit garçon qui devait avoir à l'époque 5 ou 6 ans et qui avait de très très gros troubles psychiques, qui étaient extrêmement agressifs, qui prenaient des crises de colère épouvantables, enfin... Alors, on avait remarqué en particulier que ces crises de colère, cette agitation extrême, étaient déclenchées chez ce petit garçon que j'appellerais David, chaque fois qu'il voyait en face de lui un enfant calme, tranquille, en train de sucer son pouce ou en train de jouer avec un petit jouet, ça déclenchait cette violence. Un matin, la psychologue qui suivait cet enfant habitait pas très loin de chez lui. Elle avait l'habitude, quand elle voulait l'emmener à ses séances de thérapie dans le centre où on travaillait, de le prendre en charge et de l'emmener avec elle. Un matin, elle vient donc le chercher et la maman lui raconte une scène épouvantable qui s'est passée la veille. Ce petit garçon avait une petite sœur, plus jeune. Elle lui dit « Ma petite fille était tranquille dans un coin, en train de sucer son pouce ou de jouer avec sa petite poupée, je sais plus. » Tout d'un coup, il est parti dans une rage effroyable, il s'est jeté sur elle, il lui a griffé le visage, regardez dans quel état elle est. La maman est extrêmement perturbée par tout ça et raconte donc cette histoire à la thérapeute. La thérapeute prend ensuite le petit garçon avec elle dans la voiture et l'emmène dans notre centre de soins. Elle a une séance avec lui et là, dans cette séance, il commence par s'agiter. Puis il se calme, il s'assied à côté d'elle, ils ont des petits jouets, il y a un bon moment là qui se passe entre eux, et brusquement le petit garçon se met à parler d'un loup extrêmement vorace qui veut tout détruire, qui veut tout manger. Alors la thérapeute lui raconte justement une histoire. Elle lui dit, hier, j'ai entendu que ta maman m'a raconté l'histoire, ta petite sœur était en train de jouer tranquillement, et tout d'un coup, le loup David s'est réveillé, le loup David s'est jeté sur sa petite sœur et lui a fait très mal, mais maintenant, le loup David, il est calmé, il est à côté de moi, et les choses se passent bien. Donc elle lui raconte cette histoire qu'il écoute avec beaucoup d'intérêt. Et puis, la séance se termine, et juste après, il doit avoir une séance d'orthophonie. Et devant l'orthophoniste, David se tourne vers sa thérapeute et dit « Raconte à Marie-Noël, Marie-Noël c'est l'orthophoniste, raconte à Marie-Noël l'histoire de David et du loup. » Et la thérapeute s'exécute et raconte cette histoire, comme je viens de vous la raconter. Plusieurs semaines se passent et maintenant David est dans un groupe, un petit groupe d'enfants qui interagissent entre eux, une sorte de thérapie de groupe à laquelle je participe moi et où la thérapeute individuelle a été ce jour-là, comme ça arrive de temps en temps, invitée. Et à un certain moment, un des enfants du groupe s'isole un peu, se met à sucer son pouce, c'est très calme, très tranquille, et on voit que David commence à être un peu tendu. Alors nous, on est aussi un petit peu tendu et prêt à intervenir, et on va presque se jeter sur lui pour le retenir, mais il se rassied brusquement, il regarde sa thérapeute, il lève le doigt et il lui dit « Regarde ». C'est le loup qui revient, mais on va le calmer.
C'est ce que vous appelez la psychiatrie narrative ?
Oui, c'est cette façon de mettre en histoire des événements et de se les raconter des uns aux autres dans une équipe devant l'enfant, de manière à ce que l'enfant puisse se construire petit à petit un récit intérieur. Parce qu'au fond, nous avons tous à l'intérieur de narrateurs internes qui met en cohérence des événements qui nous arrivent et qui, dans une certaine mesure, nous dérangent. C'est ce que Ricoeur, que je citais tout à l'heure, appelle la synthèse de l'hétérogène et constitue, comme ça, petit à petit, notre identité narrative en donnant à chacun de ces événements qui remettent en cause notre identité une espèce de teinte plus familière en les disciplinant, en les métabolisant en quelque sorte et en faisant des éléments de notre récit intérieur, de notre histoire personnelle.
Larghetto du quintet de Mozart en La majeur, Köchel 581, pour quatuor et clarinette, joué ici par le quatuor Iacco avec Paul Meyer à la clarinette. Extrait de la soirée indétrônable L'Odéon du samedi 17 octobre 2020, en public au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. C'est un vrai dialogue de musique de chambre. La clarinette ici n'est pas une diva, elle se fond au tissu des cordes avec un lyrisme chaleureux et une élégance toute viennoise. Pourquoi Jacques Hockmann avoir choisi de nous faire entendre ce morceau? Quelle histoire s'y cache? On ne parle pas de psychiatrie narrative, mais de narration. Quelle histoire s'y cache ou s'y love?
Alors, c'est très personnel. D'abord, j'aime beaucoup ce morceau. Et puis, c'est très personnel. Mon père, qui a été un personnage extrêmement important dans ma vie, mon père jouait bien du violon et de l'alto, et il avait constitué un quatuor d'amateurs qui a duré peut-être une vingtaine d'années. Et puis, à un certain moment, un de mes fils a appris à jouer pas trop mal de la clarinette. Et mon père l'a donc intégré dans ce quatuor. Et pendant des vacances, un été, un très bel été qui se passait dans un lieu qui est aussi très important parce qu'il avait accueilli, j'ai été accueilli parmi de nombreux enfants juifs dans ce lieu, c'est le Chambon-sur-Lignon dans la Haute-Loire, où j'ai acheté finalement une maison. Et nous y passions nos vacances, et pendant ces vacances, toutes ces vacances, ils ont le quatuor en question. Et mon fils a donc étudié ce morceau, et c'est un peu ses souvenirs dans ma propre expérience, dans ma propre histoire, que je voulais un peu évoquer là.
Et donc, à chaque fois que vous écoutez cette musique, vous pensez au Chambon-sur-Lignon et en même temps aux Justes des Nations qui ont caché tous ces Juifs pendant la guerre et qui les ont sauvés?
Exactement. Et à qui j'ai une immense reconnaissance.
On pourrait se demander, quand on entend rapidement cette question de la psychiatrie narrative, est-ce que c'est pas cela le sens de la psychanalyse, ou posé différemment, quelle différence y a-t-il avec la psychanalyse, Jacques Hockmann?
Je suis par ailleurs psychanalyste, même si l'essentiel de ma pratique a été surtout la pratique psychiatrique. La pratique psychanalytique n'était qu'une petite partie de ma pratique. La psychanalyse, on devrait dire les psychanalyses, parce que, bon, Freud a été effectivement le fondateur, mais à partir de Freud, il y a eu quand même beaucoup de reprises et d'interprétations différentes. Comme je crois le dit un prophète, il y a de nombreuses demeures dans la maison du père. Moi, je me suis beaucoup attaché, j'ai beaucoup été inspiré par tout un courant de la psychanalyse qui s'est beaucoup développé aux États-Unis, mais aussi en France et également en Angleterre, qu'on appelle d'ailleurs la psychanalyse, les narrativistes, ces psychanalystes-là. Le plus connu est un psychanalyste américain qui s'appelle Roy Schaeffer. Et ces gens se sont un tout petit peu mis en opposition par rapport à ce qui reste chez Freud de ce qu'on pourrait appeler du réalisme psychologique. C'est-à-dire que chez Freud, il y a quand même l'idée que l'inconscient existe comme un objet refoulé, enfermé au fond sous la conscience, et qu'il s'agit d'extraire et de révéler. Le courant dans lequel moi je me suis inscrit est plus un courant qui considère que l'inconscient, c'est comme l'a écrit un psychanalyste français, Serge Widermann, est une construction dans l'espace de la cure analytique, est une construction qui se fait au moment de la cure analytique. Je prends un exemple plus précis, qui est au centre même d'ailleurs de la découverte freudienne, et qui est l'analyse du rêve. Freud fait l'hypothèse que derrière le contenu, ce qu'il appelle le contenu manifeste, c'est-à-dire le récit du rêve que le patient fait pendant la cure, que l'analysant fait dans sa cure analytique, il y a derrière un contenu qu'il appelle latent, mais qui existe préalablement au contenu manifeste, que ce contenu latent est représenté par des fantasmes refoulés, et qu'ici, il venait à la conscience pendant que le sujet dort, le sujet se réveillerait. Or, il fait l'hypothèse qu'il y a profondément une espèce de désir de dormir à la base du rêve et que pour continuer à dormir, il faut déformer ce récit latent, mais qui existe préalablement, il faut le déformer et ensuite il traverse ce qu'il appelle une censure et c'est ce produit déformé qui formera ensuite le souvenir que nous aurons de ce rêve quand nous réveillerons et qui sera la base du récit du rêve. Bon, très vite résumé, c'est la position freudienne. La position narrativiste à laquelle moi je me rattache, considère que ce qui est donné au départ, il y a quelqu'un qui n'était pas un psychanalyste, qui était un grand philosophe, malheureusement mort très jeune parce qu'il a été fusillé par les Allemands, il était résistant, c'est Georges Politzer, qui était un juif hongrois d'origine, mais qui est venu très rapidement en France, et dans sa critique des fondements de la psychologie, Georges Politzer a déjà une critique de Freud à ce sujet. Il dit, ce qui est donné au départ, ce qu'il appelle une psychologie concrète, ce qui est donné au départ, c'est le récit du rêve. Et ce produit latent qu'on va construire par l'interprétation ensuite, est en fait une construction secondaire, un récit sur le récit qui va se construire petit à petit et qui va ouvrir, et c'est l'intérêt de la psychanalyse, de la cure analytique, qui va ouvrir la psyché du sujet à des nouvelles dimensions inconnues, qui va lui permettre de sortir en quelque sorte
d'un enfermement
dans un certain fonctionnement pour aller vers un fonctionnement élargi.
Ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint un texte du Talmud, ce dernier point en tout cas, qui pose la question « qu'est-ce que la guérison ?» En hébreu, ça se dit « teroufa ». Et le Talmud répond « le atirpe », c'est un dénouement de la bouche. C'est-à-dire que, ou un dénouement de la bouche, ou par la bouche, c'est-à-dire par le récit, ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, et une forme de fécondité de la parole, et une fécondité existentielle d'un chemin nouveau que le patient va pouvoir prendre, et qui est ouvert justement par le récit. C'est pas qu'il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas, comme ce qui serait caché dans l'inconscient, mais c'est plus la fonction du récit qui ouvre un chemin, et ça va tout à fait dans le sens de ce courant narrativiste que vous avez si bien décrit.
Widerman, qui était juif, je ne l'ai pas connu personnellement, et je ne sais pas quel était son rapport avec la tradition talmudique. Ce qu'il dit, c'est que ce qui apparaît dans ce qu'il appelle la construction de l'espace analytique, c'est une vérité en devenir. C'est non pas une vérité qui serait déjà là, qui précéderait en quelque sorte l'activité interprétative, c'est une vérité qui se crée par l'interprétation elle-même. C'est une vérité en devenir, et le but de la cure analytique, c'est d'ouvrir effectivement un espace clos vers un espace de plus en plus grand d'associations possibles, de...
Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, ça rejoint aussi, et ça pourrait être, une interprétation d'un des noms de Dieu, qui se dit en hébreu « ayez Asher ayez », ça veut dire « je serai ce que je serai ». En français, on traduit « je suis celui qui suis », mais ce qui veut strictement rien dire, alors que en hébreu, on peut dire que « ayez, je serai », Asher ayez, ce que je construis de la possibilité d'être en ouvrant mon existence par des ouvertures dont le récit a une vocation fondamentale.
Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, me semble-t-il, quand on soigne ceux que j'appelais des fous, qu'on peut appeler des malades mentaux, quelle que soit leur pathologie, toutes ces caractéristiques communes d'être enfermés. On croit souvent que la folie, enfin la folie au sens pathologique du terme, non pas au sens du génie créateur, on croit souvent que la folie, c'est extrêmement riche, c'est souvent au contraire un appauvrissement, un enfermement dans des modes de fonctionnement extrêmement stéréotypés. Et le but du soin, le but de mettre justement, de remettre en route une histoire, c'est d'ouvrir vers des possibilités nouvelles, des manières différentes de raconter son histoire, de vivre son récit intérieur.
Merci Jacques Hochmann pour cette très belle conversation. Je rappelle le titre de votre livre, Introduction à une psychiatrie narrative, sous-titré De l'événement au récit, c'est aux éditions Odile Jacob, et je vous propose de poursuivre cette conversation la semaine prochaine. Merci encore Jacques Hochmann.
Merci de m'avoir invité, écouté et si bien discuté aussi.
C'était un vrai plaisir. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Chantal Nouvelot et Paul Guigue, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.